VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Bion, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. La Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme en République démocratique du Congo. Le grave manque de financement pourrait l'obliger à réduire ses activités de lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est de ce pays. Une sortie qui intervient alors que le nombre de cas monte en flèche. Bagassi Koura.
La situation est grave, a déclaré le directeur du département santé de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Emmanuel Capobianco, lors d'une conférence de presse à Genève. L'ampleur et la qualité des activités qui seront menées par les volontaires de la Croix-Rouge diminueront considérablement au cours des deux prochaines semaines, faute de financement supplémentaire, a-t-il dit. Depuis le début de l'épidémie en RDC, il y a eu près de 1150 décès, plus de 1700 cas confirmés et probables selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, mais 20% de ces cas ont été signalés au cours des trois dernières semaines seulement, a révélé Capobianco, qualifiant ce pic d'alarmant. Les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont reçu jusqu'à présent moins de la moitié des 31,5 millions de francs suisses, soit 28 millions d'euros demandés pour financer leurs activités.
Merci Bagassi. Les suites du dossier Kevasingo au Gabon, une semaine après la disparition de 353 conteneurs du port de Libreville, l'instruction menée par les autorités judiciaires scelle le sort de plusieurs hauts cadres de l'administration publique. Ils sont plus d'une dizaine à avoir été suspendus de leurs fonctions par le gouvernement. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang-Nze.
13 hauts cadres de l'administration publique sont désormais sur la sellette au sujet du détournement des conteneurs du Kevasingo, une affaire qui choque encore l'opinion publique. Ils sont 7 du ministère des Eaux et Forêts, 6 autres du département de l'économie, tous suspendus de leurs fonctions à titre conservatoire parce que selon les premiers éléments des investigations judiciaires, leur responsabilité semble avérée dans ce dossier confié au parquet de Libreville. Le communiqué lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement gabonais, Nanette Longa, dénonce sur base de la récente déclaration du procureur de la République des complicités actives et passives au niveau de la chaîne des responsabilités établie. Les membres du gouvernement qui s'étaient impliqués dans cette affaire sont invités à en tirer les conséquences qui s'imposent, conclut le communiqué. Signe annonciateur d'un prochain remaniement gouvernemental, rien n'est moins sûr, sauf qu'en revanche, les mesures de l'exécutif sont loin de convaincre les experts en conservation des ressources naturelles. Joint au téléphone par VOA Afrique, François Njimbi, militant écologiste, estime que les fonctionnaires incriminés servent, je le cite, de sacrifice expiatoire. Il en veut pour preuve les autorités portuaires qui ne sont pas inquiétées par les poursuites liées au détournement du Kevasingo. Libreville, Ismaël Obionze, VOA Afrique.
Le G5 Sahel plaide pour la création d'une coalition internationale antiterroriste. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, le chef de la diplomatie burkinabé Alpha Barry a affirmé que la lutte contre le terrorisme et la criminalité au Sahel est une responsabilité collective. On écoute Alpha Barry à New York.
À défaut donc d'obtenir un mandat sous le chapitre 7 des Nations Unies, nous demandons qu'une coalition se forme parce que la sécurité du Sahel, c'est la sécurité de l'Afrique de l'Ouest, c'est la sécurité de toute l'Afrique, c'est la sécurité de l'Europe et du monde entier. Le G5 est sur pied, mais n'est pas encore pleinement opérationnel. Le constat, c'est que la menace s'amplifie, la situation sécuritaire se dégrade. Nous pensons que les pays développés, notamment, doivent faire des efforts supplémentaires afin d'apporter un appui conséquent donc aux États du G5 Sahel qui font des efforts inestimables.
Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères, joint à New York.
Nos infos sur voaafrique.com.
Jean-Roger Bion, nous émettons du studio 1740D de la Voix de l'Amérique, ici aux États-Unis. Donald Trump promet un système migratoire qui intègre davantage de travailleurs qualifiés et qui devrait être fondé sur le mérite, non sans souligner que l'apprentissage de l'anglais sera obligatoire chez les migrants. Le président américain a par ailleurs dénoncé le modèle migratoire actuel, selon lui, faussé par les demandes d'asile fantaisistes. Pour analyser cette actualité, John Lydon a joint Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines.
Le président Trump a proposé des changements dans notre système d'immigration qui sont très importants, qui va changer beaucoup de choses, mais il ne faut pas oublier que c'est le Congrès qui doit faire passer ça dans un projet de loi. Donc c'est loin d'être fait.
En annonçant cette nouvelle initiative, Donald Trump dit vouloir stopper l'immigration illégale et surtout établir un nouveau système basé sur le mérite. Qu'est-ce qui motive ce changement à ce moment précis?
Il croit que le système actuel laisse entrer des gens qui sont honnêtes, mais qui fournissent pas grand-chose au pays, n'est-ce pas? Il manque d'éducation, il manque de métier, etc. Donc, il voudrait inviter des gens qui ont de l'éducation, qui sont importants dans la technologie, des choses comme ça, et de donner des points aux gens pour décider qui va être autorisé à venir.
Donald Trump semble pointer du doigt certaines failles du système. Il parle des demandes d'asile fantaisistes. Il parle de la loterie américaine qui n'envoie pas ici aux États-Unis des gens qualifiés, en parlant de 12% de personnes qualifiées. Est-ce qu'il y a des possibilités que la loterie américaine, pour ne prendre qu'elle, puisque beaucoup d'Africains viennent aux États-Unis par ce système, est-ce qu'il y a lieu de penser que ce système sera annulé simplement?
Si le Congrès est d'accord avec président Trump, ce sera annulé, tout à fait. Seulement les gens qui ont du mérite par l'éducation, par métier, par leur réputation, etc., seront invités à venir.
Il parle également du fait que les immigrants devront désormais apprendre l'anglais et passer un test d'éducation civique. Cela se fait déjà pour ceux qui veulent obtenir la nationalité américaine, non?
Oui, avant d'être accepté après 5 ans de résidence comme immigrant, vous avez le droit de demander d'être citoyen. Et il faut passer un examen sur votre connaissance de l'histoire des États-Unis, des lois des États-Unis, etc. Et aussi, si vous êtes capable dans la langue anglaise, ça existe déjà pour être citoyen. Je crois que ce que le président demande, c'est que les immigrants, avant de venir, soient déjà qualifiés dans la langue.
Alors, il va se poser certainement au Congrès et au Sénat un débat, celui de qui peut lâcher quoi pour obtenir quoi.
Je crois que les démocrates qui contrôlent la Chambre des représentants vont refuser parce qu'ils n'ont rien fait pour les 11 millions de gens qui habitent aux États-Unis, des étrangers qui n'ont pas de papier. Ils sont là depuis 20, 25 ans, ils travaillent, ils payent des impôts, mais ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de passeport. Et les démocrates insistent qu'on régularise ces gens-là, mais le président Trump refuse de faire ça.
Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. L'Iran a clairement fermé la porte jeudi à l'offre de dialogue du président des États-Unis, Donald Trump, pour mettre fin à l'escalade des tensions dont les deux pays se renvoient la responsabilité. Washington exerce une pression maximale sur l'Iran à coup de sanctions économiques depuis le retrait américain il y a un an de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Mais le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a assuré qu'il n'y aurait pas de guerre avec les États-Unis, tandis que Washington a martelé ne pas vouloir de conflit avec l'Iran. La Chine a déclaré aujourd'hui que les tensions commerciales avec les États-Unis avaient un impact négatif sur son économie, mais qu'il était contrôlable et que des contre-mesures seraient mises en place si nécessaire pour maintenir les opérations raisonnables dans une fourchette raisonnable. Washington a intensifié sa guerre commerciale avec Pékin en relevant aujourd'hui, du moins vendredi dernier, les tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises et Donald Trump a ordonné à son administration d'entamer des procédures nécessaires pour relever les droits de douane sur le reste des produits chinois. Pékin a répliqué en annonçant lundi son intention d'imposer des taxes sur 60 milliards de dollars de produits américains importés. Et puis la Norvège a confirmé aujourd'hui la tenue sous ses auspices de discussions entre des représentants du pouvoir et de l'opposition au Venezuela. Cela en vue de résoudre le conflit politique qui dure depuis 4 mois. Au Venezuela, l'opposant au régime Chavez, Juan Guaido, a confirmé l'information indiquant que des délégués de l'opposition vénézuélienne participaient à une médiation de la Norvège pour tenter de résoudre la crise. Le président vénézuélien Nicolas Maduro n'a pas confirmé ses contacts, mais a affirmé jeudi que son ministre de la Communication participerait bien à une mission très importante pour la paix du pays en Europe et qu'il rentrerait bientôt. Ce journal est terminé. Le prochain, c'est dans 50 minutes et vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.